Merci Emmanuel pour la présentation, mais je vais finalement laisser Tréton parler parce que c'est lui qui qui commence, qui part. Vas-y.
En effet, c'est moi, Tréton, qui commence ce soir. Donc bonsoir et bienvenue dans XT Space. Chaque personne ici ce soir, comme point, est une unité de base de XT Space. Et là, chacun et chacune d'entre nous est un point de cet espace. Les points dans l'espace permettent d'établir des liens, et c'est là que commence l'infrastructure. Ici et maintenant, on mobilise un optimisme critique pour construire une infrastructure de mise en sens.
Alors ce soir, à l'occasion de ce MIJ, on dépose notre premier plan de vol. C'est comme ça qu'on a choisi d'intituler notre présentation, parce que c'est un terme technique qui désigne le document qui décrit le vol. Et le but de cet exposé, ça va être de plonger dans ce que c'est que ce projet, XT Space, et ce qui se dessine à l'horizon. Donc rapidement, le déroulé, on l'a structuré en trois chapitres. Un premier qu'on a intitulé « Décollage », où on va essayer de présenter un squelette conceptuel un peu. Autrement dit, les concepts clés qui traversent l'intégralité de ce projet. Un deuxième chapitre qu'on a intitulé « Trafic », où on va revenir sur le contexte médiatique dans lequel s'insère le projet, et aussi la genèse et les motivations. Et ensuite, un dernier, « Instrument de bord », qui sera peut-être plus court, mais on va essayer de présenter rapidement les manifestations concrètes de XT Space qui ont eu lieu jusqu'à présent et
ceux qui sont à venir. Ouais,
celles qui sont en chantier. Donc, ça reste, ça va être un peu dense et peut-être superficiel. C'est assez nouveau, embryonnaire comme projet. Donc voilà, j'espère qu'on pourra revenir par la suite sur certains trucs si vous avez des questions. Et on va commencer donc par.
On va décoller.
Alors tout d'abord, on a commencé par réfléchir à un terme pour qualifier la nature de ce projet. Pour qu'il soit suffisamment représentatif de nos motivations tout en restant volontairement indéfini pour garder des frontières poreuses pour pouvoir y inclure ensuite une multiplicité, une diversité d'activités et de pratiques. Et on est parti sur interface. Donc XT Space est pensé comme cette zone de contact, de rencontre, d'interaction entre les personnes en tant que point constitutif. Donc ici aujourd'hui c'est vous, c'est nous. Et une vision du monde d'aujourd'hui attentive à ses potentiels. Donc on l'a pensé aussi comme une forme d'interface qui propose une boîte à outils pour se repérer et mieux naviguer au sein d'une modernité d'abstraction, de complexité, de globalité, de technologie.
Voici une interface. Pourquoi la technologie ? Parce que la technologie est à la base de nos réflexions, c'est notre point de départ, et c'est parce que nous considérons que le monde humain est de nature technologique aujourd'hui. Les systèmes technologiques sont les tissus conjonctifs et les systèmes circulatoires de la modernité, et ce sont ces systèmes-là qui définissent notre rapport avec le monde. À partir de ça, on identifiait un besoin critique de ne pas repousser les multiples couches de cette modernité, des couches d'abstraction, mais plutôt d'admettre, d'effleurer un maximum sa surface la plus à jour et d'y atteindre une compréhension la plus poussée qu'il soit. La notion de couche d'abstraction peut suggérer qu'on perd contact quelque part avec la matière qui constitue notre monde. Mais c'est aussi reconnaître qu'on repose sur les épaules de géants de plus en plus géants et tout le vertige qui va avec, les utilisateurs comme les concepteurs. On comprend aussi que ce ne sont pas les formes et les objets en eux-mêmes, le hardware, qui structurent directement notre quotidien, mais ce sont les processus qui construisent, entretiennent, contestent et modifient les autorisations qui sont l'enjeu de toute étude sociale du milieu bâti et de la technologie. Voilà la fin de cette phrase. On aimait bien qu'il se balade tout seul sur une autoroute. C'est à partir donc des relations sociales et des droits de contrôle, des usages, qu'on commence à trouver un sens à la structuration de la subjectivité et au vecteur d'agentivité dans une société technologique. Donc subjectivité et agentivité. Il est important d'amener une compréhension de ce qu'on fait de la technologie à travers l'objectif de ce qu'on a le droit d'en faire.
Donc voilà une nouvelle, un nouveau concept qu'on introduit, subjectivité. En effet, la technologie n'est pas seulement façonnée par la société, elle est profondément ancrée dans les processus sociaux, les valeurs, les relations sociales, les structures de pouvoir, au point d'en être indissociable. Donc on a dit structure de pouvoir, ça suggère que les technologies ne sont pas neutres. Au contraire, elles sont spécifiquement conçues en vue de cultiver une certaine subjectivité type. Et donc si la technologie facilite, permet, conditionne, façonne notre rapport au monde, elle reconfigure en même temps notre rapport à nous-mêmes. Elle est quelque part subjectivisante. Et donc, on peut dire que la technologie constitue un dispositif d'interpellation. Donc elle interpelle, elle désigne, elle attribue une identité au sujet. En ce sens, on peut dire que vivre au sein de la multitude d'infrastructures entremêlées de la société contemporaine, c'est reconnaître sa place dans les grands systèmes qui sont à la fois libérateurs et coercitifs. Donc l'innovation et l'évolution des technologies et de la société qui va de pair contribuent à une redéfinition continue des subjectivités.
Voilà la fin de cette phrase et l'image qui va avec. C'est fascinant. En effet, ces mêmes outils subjectivisants sont des leviers potentiels d'agentivité et ils sont intrinsèques aux et imbriqués dans les espaces technologiques qui composent notre quotidien. Si on vient d'examiner la capacité qu'ont ces technologies là à nous façonner et si on a parlé avant de ce qu'on fait de la technologie, compris à travers les autorisations et les interdictions qui ne sont pas matérielles, il est néanmoins critique de considérer directement le moment où on la déploie, la technologie, dans le monde. Être pour une accélération technosociale, dans ce sens, c'est un engagement auprès de l'augmentation non triviale de la liberté collective au travers du développement technologique. Ici, on voit une personne née sans un de ses bras qui alimente sa prothèse en attendant son vol dans un espace prévu pour brancher son smartphone. La suite de la phrase, et non pas auprès d'un quelconque déterminisme technologique naïf. On parle d'agentivité, comment est-ce qu'on la définit ? Pour XDSpace, l'agentivité, c'est la capacité d'agir dans le monde, c'est une nécessité pour surmonter le sentiment d'incapacité, et elle permet de surmonter obstacles et contraintes. Le processus d'identification de ces leviers d'agentivité intrinsèque et le processus par lequel on met en place des marges de manœuvre personnelles. Et pour les curieux, ceci est la plus grosse moto sur Terre, fonctionnelle.
Et donc on a parlé de subjectivité, agentivité, maintenant donc culture en réseau, puisque les espaces sociaux, culturels et technologiques reposent quasi intégralement sur des réseaux numériques. Et inscrits dans ces réseaux, les sujets agents joue un rôle clé en tant que producteur d'informations, de sens, de valeurs, brisant l'opposition traditionnelle entre consommation et production. Et ils génèrent des cultures en réseau à leur tour à partir de ces espaces technologiques. À la différence des autres médias, néanmoins, les médias neuronaux auraient la particularité de réagir et d'agir en retour. Donc en anglais, on dirait « sensing back », à partir d'un ensemble de données qu'ils intègrent, analysent et interprètent. Donc dans cette catégorie de médias, on pourrait nommer donc la recommandation algorithmique, le machine learning, les réseaux de neurones. Les médias neuronaux nous scrutent, nous analysent, nous interprètent et nous proposent des contenus qui correspondent à l'idée qu'ils se font de nous, à l'identité qu'ils nous assignent. Donc là, à nouveau, l'idée d'interpellation et la tension entre eux avec l'agentivité, la possibilité d'agir. Et donc on estime que c'est en observant la naissance, en la suivant de près, et la maturation de ce qu'on peut appeler ces médias neuronaux, on peut œuvrer à la maîtrise commune et nécessaire pour éviter leurs dégâts prévisibles.
C'est un dégât prévisible. Jusque-là, on a déplié nos réflexions à partir du fait d'habiter un monde humain technologique afin de comprendre les positions et les enjeux des sujets et des agents qui l'habitent. Les manifestations esthétiques de ces cultures en réseau sont fortement ancrées dans une réalité sociale qui est au même titre une réalité technologique. Cependant, toute la production culturelle, toute la production artistique et tout l'art n'est pas inscrit de la même manière dans cette réalité-là, à force de se détacher de ses enjeux fondamentaux. Si l'art contemporain, commercial, corporate, etc., tend vers ce qu'on pourrait appeler le flou auto-élogieux de l'indétermination, alors on considère qu'explorer et mettre en lumière une culture esthétique qui gît consciemment, bien qu'intuitivement, dans les mêmes espaces technologiques qui façonnent et qui conditionnent notre rapport premier au monde, devient une démarche critique. Donc si l'art doit être compris comme un langage visuel ou conceptuel qui œuvre à produire des réflexions sur la réalité dans laquelle il s'insère, alors la qualité artistique des mêmes peut difficilement être ignorée. Les mèmes sont une véritable constellation visuelle, un moyen pour comprendre une réalité de plus en plus éclatée. Ils sont des objets autoréflexifs et autoréférentiels en constante évolution. Produits avec intention, ils sont divers par nature en ce que le contenu qu'ils renferment peut aussi bien renvoyer à des groupes de niches qu'il peut tendre vers l'universalité.
Et donc on va terminer par ce qu'on a appelé la mise en sens. Et donc c'est un peu la suite logique de pourquoi on voulait mobiliser l'art et l'esthétique. Parce que l'esthétique, ça renvoie aux deux significations du mot sens. L'expérience sensorielle et la production de sens. C'est-à-dire qu'on peut faire l'expérience de l'art en mobilisant nos sens, tout en aiguisant notre connaissance, notre compréhension et la réflexion. Donc l'esthétique nous amène à développer la réflexion en même temps qu'elle nous amène à interroger, comprendre et réinventer les médias compris comme extension du corps et des sens. Mais faire sens, ça suggère aussi la construction d'une signification, d'une compréhension qui soit synthétique et donc une quête de sens. Et ça, c'est d'autant plus d'actualité aujourd'hui dans une ère qu'on appelle post-vérité de plus en plus. Puisqu'on se rend compte qu'il n'existe pas de réalité consensuelle, même si ce n'est pas réellement un enjeu qui date d'hier, il est quand même très accentué au sein de cette sphère informationnelle contemporaine. Où donc, comme je disais, on n'a pas de réalité consensuelle, pas de grand narration ou de régime. On a en revanche des régimes de vérité dominants qui imposent des certitudes inébranlables et des vérités incontestables. Et donc là, on va transitionner vers le deuxième chapitre où on s'intéresse justement à cet écosystème médiatique qui est de plus en plus fragmenté avec une démultiplication des réalités et des vérités. En commençant donc par la créateur économie. Donc un petit détour par ma recherche, puisque ce projet, la genèse du projet XTSpace s'inscrit dans la suite de la recherche que j'ai menée en master, qui s'intéressait à l'écosystème médiatique contemporain. Donc la critique d'art Caroline Busta, elle en dresse un paysage schématique lors de la conférence qu'elle délivre dans le cadre du congrès The Future of Critique, qui se tient à la Bundeskunsthalle à Bonn. Donc il n'y a pas le diagramme. Voilà. Donc elle précise qu'avec leur avènement, les réseaux sociaux ont radicalement bouleversé l'appréhension, la production et la dissémination des images et des informations. Ces nouveaux espaces informationnels ont généré une nouvelle économie numérique et par extension une nouvelle économie culturelle qu'on nomme donc la créateur économie, qui repose sur la monétisation de contenu sur les plateformes. Ces plateformes se sont donc imposées comme nouvel espace d'interaction avec la production culturelle aux côtés des institutions culturelles traditionnelles. Comme on peut le voir donc, sur cette image, on observe une démultiplication d'interfaces, un éclatement, une fragmentation de la sphère informationnelle. Donc, les artistes moi, auxquels je me suis intéressée, de la génération post-internet, qui sont introduits sur le marché de l'art traditionnel, vont rapidement investir ces espaces, mais alors qu'ils espéraient que les réseaux sociaux permettraient de contourner la médiation institutionnelle, Il se retrouve finalement tiraillé entre ces deux mondes à la merci de deux patrons, donc d'un côté l'institution et de l'autre la plateforme.
La plateforme, qui n'est pas inerte. Les plateformes dont on parle ne sont pas inertes. Au fait, ils ont des physics, platform physics. Les plateformes et les réseaux sociaux ne sont effectivement pas les agora publics qui promettaient être. Ils sont animés par des logiques, des règles physiques qui contraignent et façonnent l'activité de ces utilisateurs. Qu'est-ce qu'on retrouve parmi ces règles et ces propriétés? On retrouve des quantités, une diversité assommante d'informations, de services et de pubs, de collecte de données, des fils d'actualité personnalisés, des recommandations algorithmiques, ce qui engendre des bulles de filtres, la polarisation, la radicalisation, l'impossibilité de débat, la viralité. Le tout produisant ce qu'on appelle l'économie de l'attention, qui est fondée sur une attention, sur une captation immédiate et efficace de l'attention. Ce régime de l'attention se manifeste par des successions de ruptures ponctuelles du quotidien, des remontées d'enthousiasme, d'euphorie ou de rage, toujours éphémères, qui ne se prolongent rarement au-delà de la durée de vie de la bulle d'attention. D'autant plus que là-dedans, il y a l'illusion persistante d'une sphère publique. L'expérience d'Internet est aujourd'hui hyper personnalisée et atomisée, et elle produit un véritable brouhaha médiatique où les opinions et les informations s'entrechoquent simplement, s'évaporent et stérilisent.
Et donc, toujours dans le cadre de cette recherche menée en master, je me suis intéressée. J'ai pris pour ancrage les discours critiques formulés par des personnalités du monde de l'art de cette génération post-internet, dont la pratique s'est vue fortement impactée par les logiques de la plateforme, mais qui ont su mettre leur rôle d'influenceur au profit d'une critique des infrastructures culturelles. Ces personnalités émettent finalement une double critique, une dirigée vers les institutions traditionnelles captées par une élite culturelle, qui ne sont pas suffisamment attentives à l'effervescence culturelle produite en ligne ou tout simplement pas suffisamment équipées ou adéquates pour l'adresser, et une autre, finalement plus virulente, dirigée vers les plateformes numériques, foyers, vecteurs et catalyseurs du néolibéralisme. Mais pour contrer ou contourner le régime de l'économie de l'attention, ces créateurs-créatrices privilégient un format discursif plus long qui redonne sa place à la complexité de l'analyse. Souvent, ça prend la forme de vidéo-essais, de live-stream ou de podcast. Il privilégie aussi un public plus réduit. Cela est rendu possible par le financement participatif qui donne accès à un serveur Discord, une messagerie qui est uniquement accessible par souscription ou invitation.
Ces formats discursifs constituent des canaux de diffusion alternatifs, donc un secret sorting, autour desquels se forment des communautés au sein des espaces semi-privés d'Internet qui donc échappent aux logiques, en partie, écrasantes du Web 2 qui est publiquement indexé. Les utilisateurs délèguent leur capacité d'analyse et de faire sens à des commentateurs qui leur délivrent leurs interprétations de la réalité. Ils se forment alors progressivement des communautés qui agissent comme des filtres, des grilles d'analyse et de compréhension du monde. Donc la communauté devient média. Elle fonctionne aussi comme des agrégats culturels où les utilisateurs se retrouvent par affinité, par le biais d'intérêts communs et ils y développent leur propre culture, donc de la mythologie, du folklore et leur propre structure organisationnelle hors institution. Ce qu'on retrouve ici, ce sont des espaces réduits propices à l'échange, au partage, à la délibération, à la construction d'imaginaires et de savoirs communs.
Et donc de ces communautés, il en existe plusieurs exemples. Notamment Do Not Research, on a peut-être les liens pour montrer rapidement. Do Not Research, New Models, Trust, voilà. Disintegrator, Becoming Press. Donc pareil, on pourra revenir tout à l'heure sur Moi, j'ai essentiellement travaillé sur ces communautés dans ma recherche, donc là, je ne veux pas trop forcément m'étaler là-dessus, mais ce sont justement des exemples de communautés où on va avoir une création de contenu et une volonté de faire sens collectivement. Et tout ça, ça passe par ces serveurs Discord qu'on évoquait précédemment. Et ils se désignent d'ailleurs eux-mêmes entre eux comme réseau de collaborateurs. Et ils proposent, au sein de cet écosystème médiatique qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est éclaté, balkanisé, fragmenté, ils appellent plutôt, pas forcément une unification, mais à imaginer un écosystème interdépendant où les communautés s'interconnectent, où les flux d'informations se croisent, se nourrissent et s'influencent. Donc plutôt que d'imaginer des enclaves coupées du reste du monde, on peut imaginer un archipel et des îlots reliés entre eux. Voilà. Et donc, pour finir, on va passer à notre troisième chapitre à présent, donc qui sera un peu plus court.
Les instruments de bord.
Instruments de bord, où on va finalement présenter une métaphore organisationnelle pour XDSpace. Donc, comme on l'avait dit dans le texte descriptif, il me semble, on a choisi XD pour le smiley, mais aussi pour X, la variable, et D, la dimension. On a pensé donc la première dimension comme donc l'unité finalement la plus petite constitutive.
C'est ce qu'on a dit au début, les personnes en tant que point.
Oui, c'est les personnes, mais bon, ça reste à développer, mais c'est les éléments constitutifs de la constellation. Ça pourrait aussi être les idées. Puis dans la deuxième dimension, l'idée c'est de rendre visible et lisible les idées. Donc ça peut regrouper aussi bien des essais, des articles, des vidéos-essais, photographies, collages, films, vidéos,
on
capture
d'écran. On considère
que
ce sont souvent des surfaces qui permettent de rendre visible la signification.
3D, c'est la spatialisation de ces idées.
Oui, ouais. C'est pour souffler dans les idées, souffler une présence spatiale.
Voilà. Donc pareil, là, on a pensé des pratiques curatoriales, regrouper un ensemble de travaux, que ce soit des projections, des expositions, soirées, concerts, lectures. Enfin, lecture au sens de... pas anglais hein, du terme, mais... ou bien des groupes de lecture, discussions, conférences. Enfin, ça renvoie aussi à ce que fait le MIJ, finalement. Aussi, gaming, des ateliers, workshops... pour échanger des savoirs pratiques. Et là, oui, peut-être plus concrètement, donc jusqu'à présent, on a surtout...
On a surtout exploré la possibilité des espaces 3D.
Ouais.
Ici, à la Générale, dont certains d'entre vous étaient sûrement en présence. Le 1er et le 25 avril, donc Man with a Movie Camera 2025. C'était le tout premier événement. Il y a eu une cinquantaine de personnes, à peu près. Mm-hmm. Et en quelque sorte, c'était exactement ce qu'on espérait voir dans un espace 3D, dans le sens XDSpace. C'est-à-dire qu'avant et après, pendant, il y avait le contenu, les idées, le film... Mais avant et après, il y avait une quarantaine de personnes, plus ou moins, qui s'échangeaient librement autour de ces questions-là ou d'autres questions. Ensuite, là, dimanche, on a projeté un autre film, Transformers Terminal. Et ces films-là font partie d'une série, donc la première série d'espace que propose XDSpace, qui tourne autour du cinéma Internet. Je ne sais pas si toi tu veux dire quelque chose de...
C'est une appellation qui reste un peu vague. C'était deux exemples très différents. Man with the Movie Camera, ça reprenait le film, l'original, donc L'homme à la caméra. En le réexplorant à travers l'esthétique Internet. Donc,
mais aussi les techniques de montage et les techniques de déplacement, les questions d'espace urbain qui, à l'époque, étaient forcément dans l'espace réel, dans la ville, et qui se traduit de plus en plus par des espaces numériques ou sur un écran.
Alors que là, Transformers Terminal, c'était plus un film avec une narration classique, mais qui prenait pour sujet un lien avec les cultures Internet. En l'occurrence, c'était la culture des fans. Et
aussi les relations parasociales.
Les relations parasociales, oui. Et donc la prochaine, le 30 mai, qui sera un peu différente. Donc, le truc, c'est que nous aussi, on découvre souvent les films avec le public. Là, il va s'agir de... Open Secret, c'est un peu un projet curatorial aussi, donc avec lequel on collabore d'une certaine manière. Donc là, on va montrer 10 courts-métrages réalisés à chaque fois par des artistes dont la pratique tourne beaucoup autour d'Internet, des cultures Internet. Donc voilà, pour le moment, c'est ce qu'on a présenté. On a eu ces 3 projections. Mais ce qu'on essayait de... Je ne sais pas si ça a été très clair là, à travers la présentation, mais c'est ce qu'on disait avec le terme interface, le fait de vouloir garder quelque chose d'assez vaste et différentes dimensions, c'est de ne pas se limiter justement à être un projet de projection, mais pouvoir...
Pouvoir se déplacer à la fois conceptuellement, physiquement, entre plusieurs dimensions, entre plusieurs échelles, et dans cette interface-là, de pouvoir les maîtriser à la fois en même temps, de faire des allers-retours, d'être ouverte à cette complexité-là.
Tu veux finir sur les... Ouais.
Les espaces à venir. Oui, pour dire un mot concrètement sur ce qui est en chantier actuellement. On est en train de... Oui, actuellement, on est en train de... créer une sélection de personnes et de projets qui nous intéressent dans le contexte d'infrastructure et de proposer, et c'est là où on ne sait pas encore exactement quelle forme ça va prendre, mais de proposer des rencontres numériques autour des conversations sur l'infrastructure. Ça, c'est le projet le plus, je pense, qu'à la plus grande échelle qu'on a actuellement à l'horizon, mais aussi d'autres projets qu'on...
Bah, peut-être le plus simple, on a évoqué donc ces communautés Discord. On aimerait voir si ça peut fonctionner ici aussi. Donc là, pour le moment, ça n'existe pas encore. Mais les différentes communautés qu'on vous a présentées, elles fonctionnent depuis plusieurs années avec ce système-là de serveurs, avec des catégories de discussion, des salons. Et ils organisent à la fois toutes sortes d'échanges en ligne, des événements, des groupes de lecture donc, qui se font en ligne, mais aussi des moments de rencontres hors ligne. Et à ma connaissance, ça n'existe pas. Enfin bon, certainement, il existe des serveurs, toutes sortes de serveurs Discord en France, hein, mais celles qu'on vous a pas présentées, on a montré ça assez rapidement, mais elles fonctionnent comme des formes de para-institutions, donc elles ont quand même un rôle assez important dans cette diffusion de la culture Internet. Ça reste quand même assez anglo-saxon, c'est assez développé aussi en Allemagne, à Berlin en particulier. Donc on réfléchit à ce serveur Discord, et aussi on a parlé de rencontres virtuelles, mais spécifiquement, on aimerait travailler à la construction d'un serveur Minecraft également. Et aussi développer le côté peut-être publication, ouvrir à des contributions d'articles, etc. Bon, voilà, ça reste quand même très en chantier. Mais je pense que c'est aussi des formes qui existent, hein, tout à fait en France. Je pense que le MIGE en est un très bon exemple. Donc on reprend aussi des formes, et la générale. Hein, donc voilà. Mais peut-être que nous, on veut aussi tendre vers ce côté plus virtuel et Gen Z un peu. Génération Z, je ne saurais pas, c'est quoi, je ne sais même pas, c'est 80... Bon, bref.
Donc, vous avez virtuel et après, j'ai...
on a dit Gen Z.
Gen Z.
Génération Z.
Voilà, je crois qu'on a fait le tour. C'était hyper dense, mais on va peut-être ouvrir aux questions.
Merci beaucoup. C'était effectivement très dense et très rapide. Est-ce que les slides seront disponibles ou est-ce que on peut les archiver avec peut-être sur le site, ouais. Il y avait, parce qu'il y avait beaucoup d'écrits là pour les personnes qui écoutent à la radio, mais qui étaient en double de la voix, mais quand même vous avez parlé assez vite. Et moi ça atteignait mes limites de capacité de lecture. Voilà, mais bon.
Ça va être disponible en ligne.
Qui veut poser la première vraie question ? Ah, il y a une question internet.
Ouais, hop, je suis désolé pour le câble. Ouais, non, désolé. Pour le coup, c'est pas une question internet. C'est moi. J'ai deux questions en fait quand j'écoute la présentation. Enfin, j'en ai plein en fait des questions et parce que je pense que c'est une présentation qui est très touffue, qui a une invitation à poser plein de questions puis à ouvrir les boîtes parce qu'il y a plein de boîtes. Je sais pas vraiment trop par où commencer parce que j'ai pris un peu des notes, mais il y a deux choses que j'ai trouvé vachement intéressantes. Le premier, si vous dites, ouais, on découvre les films avec le public quand on montre les projets, ce qui est vraiment assez pour moi quasiment contre-intuitif par rapport à une pratique curatoriale classique où généralement on fait de la recherche, on fait de la veille et puis on va regarder le truc et puis on va assembler, ce que je trouve assez d'ailleurs aventureux puis assez intéressant. Mais ce qui me pose vraiment aussi cette question sur comment est-ce que finalement d'une certaine manière en fait comment est-ce que vous façonnez vos critères de sélection, parce que je pense que c'est un peu la question que ça pose, c'est-à-dire comment est-ce que finalement on prend le risque, qu'est-ce qui fait qu'on va prendre ce risque de faire cette expérience collective, c'est-à-dire tiens on y croit parce qu'il y a forcément des chemins qui vous amènent comme ça à faire ce... Et donc ça j'aimerais bien vous entendre là-dessus vraiment pour essayer de bien comprendre en fait le travail de veille que vous faites, aussi dans quels espaces ça se mène, parce que je pense que ça c'est pas forcément très clair pour eux. Parce que je pense que chaque film a peut-être aussi sa zone en fait. Et donc je pense que ça permet un petit peu de lever le voile justement sur toutes ces choses-là. L'autre question que j'aimerais poser, c'est j'entends qu'il y a effectivement cette entrée par rapport à Discord, hein, qui est donc un logiciel spécifique avec ses propres serveurs, ses propres communautés, etc. Et la question de savoir justement si ça pourrait se transposer dans d'autres types d'architecture, sachant que est-ce que justement X d'espèce, ça pourrait être carrément aussi une initiative qui va créer son propre serveur, mais aussi d'une certaine manière affiner ses protocoles, peut-être se dire tiens le protocole de Discord en fait il n'est pas forcément adapté, peut-être qu'on serait mieux sur un protocole Mastodon ou je dis celui-là parce qu'en ce moment c'est un protocole pour moi qui est assez intéressant, justement parce que c'est des archipels etc. et qu'on est en dehors justement de cette question de la centralisation, mais il y en a plein d'autres, hein, et l'idée c'est pas de le restreindre, hein, mais plutôt de se dire justement est-ce que l'idée, c'est peut-être de commencer par mettre un serveur, puis petit à petit, c'est aussi une aventure qui va aller un petit peu. Ou est-ce que vraiment, c'est l'idée que voilà, Discord, c'est la technologie, donc à ce moment-là, pour quelle raison ? Donc, est-ce que c'est justement un petit peu fluide au niveau des technos, ou est-ce que justement, ça peut être dans une période de recherche jusqu'au moment où justement, vous avez aussi ces critères-là, et à ce moment-là, quels seraient les critères un petit peu techniques et technologiques là, qui vous permettent justement voilà, de faire le choix des espaces, sachant qu'effectivement ils ne sont pas exclusifs. Hein, voilà. Voilà pour la question, je vais redonner le micro à Emmanuel. Merci.
En tout cas, merci pour la présentation.
Beaucoup de questions.
Je pense que je vais commencer par la première question. Alors, c'est très difficile d'y répondre parce que d'une certaine façon le choix qu'on fait de montrer ces...
Je pense que le choix est réseauté aussi.
Oui voilà, en fait il y a un côté hyper intuitif parce qu'on est internet ça fonctionne, enfin c'est bon, je sais pas si on l'a bien montré, mais il y a ce côté à la fois très partagé, universel de réseau, mais aussi finalement une multiplicité de niches culturelles. Et souvent, quand on est dans ces niches, on a l'impression que tout le monde est au courant de tout. Et Tréton et moi, on baigne là-dedans depuis un moment. Mais en fait, une fois qu'on a une porte d'entrée vers un certain réseau, on...
C'est les bulles de filtre dont voilà, on parlait. Ouais.
Et en fait, c'est en étant donc inséré dans ces communautés. Donc moi, j'ai travaillé sur une en particulier, Trust, qui est à Berlin. Et en fait, on constate qu'il y a une... C'est en étant dans ces serveurs-là, ça agit comme un filtre vraiment d'interaction avec le monde. Donc ça devient un véritable... Les médias avec lesquels on interagit sont sélectionnés, pas simplement algorithmiquement, mais ils sont partagés à travers ce réseau d'utilisateurs et utilisatrices qui sont eux aussi au sein de ces communautés.
Et c'est aussi... Pardon.
Non, vas-y.
Je pense que c'est aussi pour ça que ces projections et ces films et les projets qui nous intéressent, ils ont tendance à apparaître presque spontanément, sans vraie racine géographique ou que ce soit. Ils vont souvent être projetés en premier là où l'équipe est majoritairement centrée, donc New York ou Chicago, étant donné que c'est souvent des projets qui sont, si c'est pas forcément américain, du moins anglophone, à l'échelle de la culture internet. Mais les films qu'on a projetés là, c'était des films qui... Les projections après les avant-premiers, c'est ça qu'on dit ? Les projections suite à l'avant-premier apparaissent aussi de manière presque rhizomique. Enfin, ça commence ici, puis ça apparaît là, puis ça apparaît là. Et on sent dans cette absence de structure géographique la présence d'une structure réseautée dans le raisonnement, des filtres qui fonctionnent de cette manière-là.
Ouais, je ne sais pas si c'est très clair, mais en fait, il y a vraiment ce côté de communauté comme média où on a, finalement, il n'y a pas vraiment de veille, en fait. Et ça pourrait être critiqué parce que justement, c'est le fait... C'est le fait d'accepter que les médias, les contenus, les idées avec lesquelles on va interagir, elles viennent à nous à travers ce filtre-là qu'on a choisi. Donc c'est comme si on était, je veux dire, si on va à la fac, à l'université, on interagit avec le contenu que nous proposent les profs, etc. Et à partir du moment où on fait partie de ces serveurs-là, on fait ce choix-là. Enfin, pas forcément d'adhérer, hein, parce que je dis pas que c'est on adhère de façon, enfin, à débattre. Mais il y a un côté de, on accepte de que ces personnes-là sont, on les a retrouvées par affinité, qu'ils
emportent la volonté du réseau en quelque sorte.
Oui, c'est comme si c'était des pairs finalement qui valident ces informations-là. Donc tout ce qui est partagé. Ce qui va être montré au sein de ces communautés, ce qui va être mis en valeur au sein de ces communautés, on estime que c'est approuvé d'une certaine façon. Je sais pas si c'est très clair, mais...
Et je pense qu'on peut dire que 3D, dans ce sens-là, c'est quelque part une matérialisation de cette bulle de filtre. How do you say it in French? Bulle de filtre.
Bulle de filtre.
C'est presque une matérialisation et une réification de cette bulle de filtre, sinon éphémère, qui reste dans les points, dans le réseau, sur Discord ou dans des groupes chat.
Mais ça se voit. Quand on va sur les pages Insta, par exemple, parce que c'est vrai que ça tourne beaucoup, malgré tout, autour des réseaux sociaux mainstream. Des grandes plateformes, mais quand on va sur ces pages-là, rien que le fait de voir les abonnés mutuels, ça dit beaucoup de choses sur c'est quoi cette constellation, qui est liée comment, et on sait qu'on...
Oui, c'est une constellation qu'on découvre au fur et à mesure.
Bon, voilà. Bon, je pense qu'on pourrait débattre, c'était aussi beaucoup des interrogations qui traversaient ma recherche. Après, on s'est aussi interrogé sur... Là, c'était un petit peu un point de départ de faire venir... on a parlé tout à l'heure des cultures mémétiques et des pratiques visuelles qui, c'est pas qu'elles n'existent pas forcément en France, mais nous on estime qu'il n'y a pas vraiment de, on n'a jamais été confronté à ça ici à Paris.
Alors qu'on a bien cherché.
Ouais. Du coup, dans un premier temps, on s'est dit, on va essayer de faire, de trouver, créer ces lieux, ces espaces de, où on peut les montrer. Mais on a évoqué l'idée, peut-être dans un second temps, de pourquoi pas nous faire un appel à candidature, mais
de faire ce travail curatorial plus conventionnel,
plus active, où les gens pourraient proposer leurs travaux et voilà. Mais bon, sur ces trois films-là qu'on a montrés, on savait qui les avait produits, on savait que ça, où est-ce qu'ils avaient été montrés précédemment. Et ça s'inscrivait dans ces réseaux-là auxquels nous, on s'identifie d'une certaine manière. Voilà, donc ça, c'était la première question. La deuxième, bon, Tréton, il est plus technique sur ces points-là. Moi, je dirais juste par rapport à Discord, c'est ce que j'ai beaucoup travaillé sur la critique donc, des plateformes du ClearNet, du web surfacique. Et Discord était d'abord pensé comme... je ne sais pas si on a évoqué la métaphore de Dark Forest, donc un web semi-privé 2.5, c'est-à-dire qui n'est pas répertorié, indexé sur le web accessible publiquement.
On ne le retrouve pas sur Google.
Voilà, donc, pareil, ça, on peut parler de ça pendant des heures, le côté à la fois exclusif, excluant, mais aussi... protecteur, protégé finalement. Donc il y a une chercheuse que j'aime bien, Véronique Goudinou, qui parle d'immensité symbolique et de monde temporaire. J'aimais bien dans sa métaphore cette idée de monde temporaire parce qu'elle oppose donc l'immensité symbolique écrasante où on se retrouve pas à ces mondes qui sont plus réduits, plus intimes, plus où il y a une plus de convivialité, mais il faut aussi les penser de façon temporaire et se dire que ça va permettre au long terme de construire quelque chose de plus durable, plus stable, parce que bien évidemment Discord c'est pas ce qui il y a tout, enfin c'est aussi là encore une fois moi je suis pas très geek, enfin je sais même pas si c'est le bon terme, hein, mais en tout ce qui est j'ai même pas les termes, enfin, les façons plus décentralisées de concevoir le web, je m'y connais pas trop. Je termine là-dessus. Je sais que ce réseau de communautés, ils ont essayé justement de se regrouper. Pour l'instant, ça n'a pas super bien marché, mais pour l'idée, c'était de pourquoi pas voir ce que ça pouvait donner dans le Web 3. Alors, le blockchain, tout ça, pareil, ça me dépasse et puis ça pose aussi d'autres questions qui sont
aussi polémiques et qui sont critiquables, mais polarisant.
En tout cas, tout le monde est conscient que Discord n'est pas la plateforme idéale, mais c'est en tout cas un premier point de départ où justement on peut essayer d'initier ces conversations. Voilà, mais peut-être tu veux compléter.
Oui, je suis d'accord avec ça. Je dis ça dans un premier temps parce qu'elle a beaucoup dit et je partage ces mêmes convictions. D'autant plus que sur le côté forcément nuancé, enfin sur l'avis forcément nuancé par rapport à Discord, c'est vrai que moi, n'étant pas chercheur spécialisé dans ces questions-là, donc n'ayant pas la même profondeur de connaissance envers le sujet que Mélissa, mais d'un point de vue technique, de manière suivant mes propres intérêts, j'arrive à construire des avis là-dessus. C'est vrai que même le vocabulaire de Discord est très drôle, presque, parce qu'ils disent serveur, alors que ce ne sont pas des serveurs. Enfin, ce serait plus approprié d'appeler les serveurs Discord des pages web. Enfin, ils ne sont pas indexés publiquement, mais Discord, dans leur conception, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient que s'ils appelaient ça serveur, il y avait une notion décentralisée, enfin une notion de décentralisation, du moins dans le langage, qui allait venir avec ce qu'ils proposaient. Alors que c'est pas privé dans le sens chiffré ou dans le sens de, dans le sens où, enfin, on n'a pas la même autonomie technologique qu'on aurait en ayant son propre serveur qu'on détient lui-même. Pour ce qui en est des manifestations éventuelles d'XDSpace dans des espaces numériques et dans de différentes, avec quelle technicité et quelle vision de Internet. Comment y répondre? Par exemple, notre site web est fait par mes mains et on a pris la position de ne pas se servir de JavaScript, par exemple. C'est vrai qu'on a, on a discuté de plein de choses. On a discuté de groupe mail. On est tous les deux fans de feed RSS. On est, je pense qu'on est tous les deux dans nos vies numériques personnelles. On a pas mal de pratiques. On a pas mal de pratiques techniques, non pas anachroniques, mais qui sont. Enfin, on sait sortir des centres. De. Mais pour ce qui en est de là où on est actuellement, avec un site web publiquement indexé qui n'est pas sur Gemini ni sur Gopher, mais qui est sur. Qui est dans le World Wide Web, et une page Insta et une Discord en chantier, et une pensée pour un serveur Minecraft. Il y a aussi une inertie dans le plateforme physique dont on parlait, une inertie conséquente, c'est quand Mélissa elle parlait de constellation et de ces espaces déjà fortement réseautés. Moi, quand j'y pense, c'est aussi, je pèse ça là-dedans aussi, de la surface d'attaque qui est, comment dire, de la capacité de, like, ways to reach people, you know. How would you say that?
Moi, je t'ai un peu perdu, mais là, tu parles de. Moi, ce que, maybe that's what you wanted to say. Je pensais à. Peut-être qu'on termine là-dessus, enfin, en tout cas, sur cette question, parce qu'on a trop tiré, mais Caroline Busta, donc la critique d'art dont on parlait, qui fait cette schéma, enfin, qui propose cette cartographie schématique entre ClearNet et Dark Forest. Eux, ils sont présents sur les réseaux sur les réseaux mainstream, donc Instagram, etc. Et leur justification, c'est de les employer comme ils emploient le terme de light leak, de fuite de lumière. Et un autre, peut-être, tu peux revenir sur le, enfin, je sais pas si c'est sur ce diagramme, mais une autre idée, métaphore employée, c'est celle de silo.
Yeah.
Ouais. Donc en fait, c'est de penser ces espaces comme lieu de broadcast où en fait on va attirer les gens parce que c'est là malgré tout où ils sont, donc on sait que c'est un lieu de business, de viralité, on sait sur quelle logique ils fonctionnent, donc on est conscient de ça, mais l'idée c'est de les tirer vers des espaces de... Une autre métaphore que j'aime beaucoup qu'elle emploie, c'est celle du Grand Bazar à Istanbul, où je sais pas comment dire en enfin les caravans, voilà, donc en gros et en fait ce qui est intéressant dans cette métaphore, c'est qu'elle, c'est le Grand Bazar, c'est un lieu avec donc des kiosques, un lieu où viennent les marchands, et en fait quand c'est un lieu un peu labyrinthique et tout, mais où on a cette vitrine où on vient vendre quelque chose. Et après, dans les rues labyrinthiques, on a des espaces de repos, des espaces justement qui favorisent, qui privilégient ces espaces de discussion, de délibération, de construction de quelque chose de plus intéressant. Donc déjà, Discord, ça serait ça par rapport à Insta et Twitter, enfin voilà. Mais c'est vrai que c'est pas parfait. Et l'idée, ça serait de tirer ça encore plus loin, quoi. Enfin, c'est vraiment des interrogations qui traversent ce projet. Moi, je prends vraiment ça me passionne. Je pense qu'il y a beaucoup beaucoup à dire. Et c'est. Mais ouais, j'ai pas une réponse là. Oui. Ah.
Non, non, je ferai une petite conclusion plus tard, mais je te laisse la parole.
Quelques éléments factuels sur Discord. Historiquement, ça vient du jeu vidéo. Après, ça a plu à plein de communautés pour s'approprier un espace virtuel. En fait, ce sont des serveurs virtuels. C'est juste des points de branchement qui permettent la diffusion de messages et puis de serveurs vocaux. Les serveurs vocaux sont hébergés dans le monde entier, mais les serveurs de données sont entièrement aux États-Unis sur Google Cloud. Donc, en matière de souveraineté de données, ça pose problème. Et dans cette époque trumpienne, n'importe qui pourrait appuyer sur un bouton rouge pour fermer le robinet. Et comme le mentionnait Kevin, Mastodon et puis aussi ActivityPub, qui est un nouveau un protocole qui a peut-être 8-10 ans, sont développés et permettent justement aux archipels, à des serveurs de s'auto-référencer mutuellement. Alors il faut une équipe de geeks ou de geekettes qui sont branchés tech pour pouvoir s'atteler à la mise en place de ces serveurs, mais c'est faisable, ça prend du temps. Et après on peut s'extirper de ces plateformes enfermantes, parce que c'est bien d'avoir un silo protecteur, mais parfois c'est un petit peu comment dire, du marketing ou alors une sorte d'idéal imaginaire, parce que en fait, ce qui se passe, où est-ce que j'en étais? J'ai perdu mon fil des pensées. Il y a ce qu'on appelle aussi le fait d'enfermer le contenu dans des gated communities, en fait des plateformes à accès conditionnel. Il faut créer un compte, il faut avoir une identité dans ces domaines-là. Ça nous enferme, l'accès est contrôlé par un tiers et l'accès n'est pas entièrement public, donc c'est pas référençable. On peut difficilement référencer du contenu d'un serveur à un autre. Et maintenant, on entend parler, je ne sais pas si on a entendu parler de cette tendance, de cette interrogation que l'Internet serait mort. Et quelque part, ces plateformes-là y participent. Et au début, on avait un Internet libertaire qui permettait à tout un chacun d'avoir une existence sur une adresse IP. Et petit à petit, on a inversé ce rapport, on est rentré dans des monopoles de contenu. Voilà pour ma tirade. Merci.
Tu veux dire quoi ? Tu as prononcé le mot Internet libertaire, c'est ça ?
Ouais.
D'accord. Non, non, peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'est l'heure de manger? Moi, je vais. Si personne ne veut parler, je vais juste mentionner ma référence universelle, celle que j'ai déjà citée la semaine dernière dans l'autre Mich, qui n'a rien à voir. Dans le livre de Thomas Pynchon, publié en 1966, Vente à la criée du lot 49, il y a la description comme ça de réseau. Donc de communication et d'échange, évidemment c'est pas basé sur Internet, hein. Mais je conseille ce bouquin dont on va fêter le 60e anniversaire très bientôt. The Crying of the Lot 49.
Tim Berners-Lee, l'inventeur du protocole HTTP, du web, web 2, enfin web 1 initialement, en fait, a lancé il y a peut-être 8 ans une initiative qu'il appelle Solid, qui se proposait en fait d'avoir des cocons ou des pods dans son langage de données pour en fait se réapproprier nos données, les faire tourner sur des serveurs. Le truc, c'est qu'il a monté une société Disrupt, je crois, quelque chose qui porte bien son nom. Et qui se proposait d'être fournisseur et puis le vecteur de définition de ce nouveau protocole. Je crois qu'il a eu les vents contre lui du Web 3, des GAFAM, et son protocole n'a pas décollé. Il y avait l'idée, en fait, d'avoir les données restockées chez nous sur des serveurs et d'autoriser un accès sélectif à des tiers, comme par exemple vous allez chez Netflix ou un fournisseur de contenu, et ben vous pouvez dire, tiens, voici ma bibliothèque de films déjà vus, et je te donne un accès conditionnel à toi en lecture. Le problème avec ça, c'est qu'on récupère les données en complètement par copie, mais on peut en tout cas autoriser un accès sélectif aux données. Et après, il y a aussi le truc intéressant que vous pourriez aller voir, d'un point de vue théorique, c'est le chiffrement homomorphique qui permet en fait d'exposer une donnée, donner à un algorithme l'accès à une donnée pour identifier quelque chose dedans sans révéler la donnée. Par exemple, imaginez où est Charlie. Je vous demande où est-ce qu'il est. Je ne vais pas vous donner la grande image totale de tous, de la population, de l'image à scanner, mais vous allez me dire si oui ou non vous avez vu Charlie et à quelle position. Et donc vous avez pu en fait naviguer dans l'image de manière algorithmique sans avoir accès à son contenu. Et derrière tout ça, en fait, il y a des offres de services qui sont en train de se développer, et puis du monde du hack ou du geek qui sont en train de développer des solutions, et ça va peut-être nous permettre de rééquilibrer le rapport des forces. Mais bon, les GAFAM sont là pour rester, ça va pas être facile de s'en défaire.
Question Internet.
Non, c'est pas une question Internet. Alors, je sais pas si, mais bon, moi, je serais content peut-être qu'effectivement le mode formel en fait de la conversation peut-être pas le bon aussi pour discuter. Peut-être que c'est bien de passer en mode informel, et c'est aussi le loisir qu'on a dans ce lieu de continuer une discussion en buvant un verre, en mangeant un truc. Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que même si là, on cut la conférence ou l'intervention, on peut continuer de discuter. Ça, moi, j'en serais ravi. Deuxième chose, c'est que demain, il y a une sorte de MIG improvisé. On a un MIG du mercredi. C'est Château Padet Boudaditya qui est déjà intervenu il y a 2-3 semaines. Mais là, il vient sous une forme concert demain. C'est à 20h aussi. Avec une performeuse, ouais, donc c'est un concert. Et puis, ça sera l'occasion aussi de rencontrer Elsa Ledoux, qui est en résidence en ce moment dans la salle Marionnette, là, qui fait un fanzine et qui arrive de Marseille et avec un travail qui est assez sympa. Donc voilà, il y aura toute une petite un petit moment. Et ça sera aussi streamé sur la radio, donc je le dis aussi. C'est à 20h, et pour la radio, ça sera sur le multistream, ouais, parce qu'on a des canaux non indexés sur le DAB. Voilà. En tout cas, merci et bravo, et puis on sera là peut-être la prochaine date, c'est, on peut le répéter quand même,
c'est le 30 mai
pour le film qui s'appelle Open Secret,
pour le projet Open Secret,
c'est 10 films,
10 courts métrages,
super,
on va rebasculer sur de l'XP,
parfait, merci.